Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement, de toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir 12 novembre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran prêt à conclure un très bon accord dans les pourparlers sur la levée des sanctions à Vienne, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères. Le vote de l'Algérie contre l'adhésion d'Israël à l'Union africaine est louable, a souligné le chef de la diplomatie iranienne lors d'un entretien téléphonique avec son homologue algérien. Au Yémen, la résistance du pays, Ansarallah, revendique des attaques aux missiles balistiques contre une base militaire saoudienne. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que Téhéran est prêt à conclure un bon accord lors des pourparlers sur la levée des sanctions avec les autres parties à l'accord nucléaire de 2015 qui devrait débuter dans la capitale autrichienne de Vienne à la fin de ce mois. Hossein Amir Abdollahian a ajouté que le négociateur en chef iranien sur le nucléaire, Ali Bareri, vice-ministre des Affaires étrangères, était engagé dans des pourparlers fructueux en Europe. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré qu'il s'agissait d'un principe important et directeur pour que toutes les parties reviennent à leurs engagements. Le vote de l'Algérie contre l'adhésion d'Israël à l'Union africaine est louable, a souligné le ministre iranien des Affaires étrangères lors d'un entretien téléphonique avec son homologue algérien, notant qu'il s'agissait de la position la plus logique à adopter par Alger sur cette question. L'Algérie a agi sur la base de la sagesse et de la logique, a déclaré Hossein Amir Abdollahian à son homologue algérien Ramtan Lamamra lors d'une conversation téléphonique alors qu'il louait le vote négatif de l'Algérie pour l'adhésion d'Israël à l'Union africaine. Cette mesure qui a été prise par vous, en plus de la position rationnelle de l'Algérie sur le retour de la Syrie dans la Ligue arabe, est précieuse, a ajouté Amir Abdollahian. Le ministre iranien des Affaires étrangères a également exprimé l'espoir que la prochaine réunion de la Ligue arabe s'en suive avec des avantages significatifs pour l'Oumma musulmane. Ce référent aux relations politiques cordiales entre l'Iran et l'Algérie, Amir Abdullahian, a exprimé son optimisme quant au développement des liens entre les deux pays dans tous les domaines. Le ministre algérien des Affaires étrangères a pour sa part officiellement invité son homologue iranien, Hossein Amir Abdullahian, à se rendre en Algérie tout en soulignant l'importance de former un comité politique entre Téhéran et Alger ainsi qu'un comité pour poursuivre le développement des relations bilatérales. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune ne répond pas aux appels téléphoniques de son homologue français Emmanuel Macron, selon les révélations du quotidien français L'Opinion. Selon nos informations, le chef de l'État français a tenté de joindre lundi soir son homologue algérien, notamment pour le convaincre de venir à Paris pour la conférence sur la Libye ce vendredi, mais il n'a pas trouvé son interlocuteur. Au bout du fil, a rapporté, et c'était en fait le mercredi 10 novembre, le journal français de L'Opinion, précisant qu'un courrier en ce sens avait été précédemment envoyé à Alger par les canons diplomatiques. Dans un entretien accordé au magazine allemand Spiegel le 6 novembre, au courant, Abdelmadjid Tebboune avait, rappelons-le, affirmé qu'il ne ferait pas le premier pas en direction de la France. Je ne serai pas celui qui fera le premier pas. Sinon, je vais perdre tous les Algériens. Il ne s'agit pas de moi, mais d'un problème national, avait-il à assurer. Au Yémen, Ansar Allah revendique des attaques aux missiles balistiques contre une base militaire saoudienne. Des forces armées yéménites ont déclaré avoir tiré 3 missiles balistiques contre une base militaire dans le sud de l'Arabie saoudite. 3 missiles balistiques ont frappé le 1er régiment dans la ville de Zahran à Al-Janoub, dans la région d'Assir, dans le sud de l'Arabie saoudite, tuant des dizaines de soldats saoudiens, dont le commandant du régiment a déclaré le porte-parole des forces armées yéménites, le général Yahya Sari, dans un communiqué diffusé sur la chaîne de télévision yéménite Al-Masira. Le général Sari a également revendiqué 4 autres attaques aux missiles balistiques contre 3 bases militaires, des éléments à la solde du régime saoudien à l'intérieur du Yémen. 2 missiles balistiques ont frappé une base militaire de la province de Taïz, tandis que 2 autres missiles ont frappé 2 bases dans la province pétrolifère de Ma'arib, dans le centre du pays, selon Yahya Sari, porte-parole des forces armées yéménites. La session intergouvernementale de la CEA sur le leadership promeut la diversification économique en Afrique centrale. Les pays d'Afrique centrale font des progrès dans leurs efforts pour diversifier les sources de croissance économique et améliorer l'environnement des affaires, mais ils doivent en faire plus pour résister au choc dû à une forte dépendance externe au milieu d'une grave épidémie de COVID-19. A déclaré un non-fonctionnaire de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. L'économie de l'Afrique centrale n'est pas assez diversifiée. C'est pourquoi nous sommes inquiets. Nous avons vu que nos pays dépendaient beaucoup plus des exportations de manière de matières premières chaque fois qu'il y avait une perturbation de l'approvisionnement mondial en termes d'exportation ou d'importation. Elle pose le problème de la vulnérabilité de l'économie et de la fluctuation des matières premières sur le marché mondial, a indiqué le responsable du bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique centrale. Monsieur Masaki a pris la parole après l'annonce par la CEA de la 37e session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et d'experts pour l'Afrique centrale prévue à Brazzaville au Congo du 6 au 10 décembre. Eh bien, chers amis, c'est tout ça, ça va. Notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Les pays arabes ont capitulé face à la Syrie. Israël a peur des missiles et du Liban. A souligner, c'est Hassan Nasrallah ce dont nous parlerons dans notre commentaire politique. Dans son discours prononcé jeudi, le secrétaire général du Hezbollah libanais, c'est Hassan Nasrallah, a passé en revue les derniers développements au Liban et dans la région. Ces derniers jours, des informations ont été publiées sur des contacts entre les dirigeants et les rois arabes avec le président syrien Bachar al-Assad. Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis s'est également rendu en Syrie. Cela signifie que les pays arabes ont accepté la victoire de la Syrie. En effet, les régimes arabes avouent l'échec d'un projet qui leur a coûté des centaines de milliards de dollars. A précisé c'est Hassan Nasrallah. L'un des acquis du sacrifice des martyrs est la prévention de la guerre civile au Liban. Grâce à leur sang, nous avons empêché une guerre et évité la domination américaine sur le Liban, a-t-il souligné. S'attardant sur la confrontation avec l'ennemi israélien et les différends avec l'Arabie Saoudite, il a déclaré les exercices successifs d'Israël dans le nord de la Palestine occupée reflètent également l'inquiétude de cette entité à propos du Liban. Ces exercices montrent qu'Israël craint une attaque libanaise contre les colonies de Galilée. Dans une autre partie de ses propos, le secrétaire général du Hezbollah libanais a déclaré qu'il ne devrait y avoir aucune tolérance au sujet de la souveraineté et des ressources du Liban. Quand on parle de la souveraineté du pays, un pouce du territoire est aussi important. Pouvons-nous être tolérants ? L'une des manifestations de l'indépendance politique et du maintien de la souveraineté est le rejet de dictats étrangers. Le Liban, grâce au sang des martyrs, a pu se dresser contre les États-Unis. Et il a abordé également le conflit lancé par l'Arabie Saoudite contre le Liban, accusant le ministre libanais de l'Information, Georges Kordahi. L'Arabie Saoudite a créé cette récente crise. On se fiche de la tension. Il y a plusieurs possibilités à cet égard, mais la réaction saoudienne au propos de Kordahi est très, très exagérée et incompréhensible. On a beaucoup parlé de la guerre au Yémen, qui est une guerre futile. Même les États-Unis et le secrétaire général de l'ONU en ont déjà parlé, mais il n'y a eu aucune réaction des Saoudiens. C'est Hassan Nasrallah a ensuite évoqué le comportement de l'Iran et de la Syrie envers le Liban tout en disant « Regardez la Syrie, comment les politiciens libanais ont-ils traité la Syrie pendant 16 ans ?» Mais lorsque, grâce au pétrolier iranien, les États-Unis ont demandé du gaz de l'Égypte et de la Jordanie à la Syrie et de là au Liban, les Syriens ont accepté. L'Iran est un autre exemple. On a beaucoup critiqué l'Iran, pourtant il a toujours rendu la main au Liban. Le problème avec le Yémen qui se pose actuellement est la question de Marib et des centaines de milliards de dollars arabes qui ont été dépensés en vain. Les victoires ont été réalisées avec les serveurs des Yéménites, avec leur intelligence, leur sagesse. C'est une victoire divine et exclusive des Yéménites.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Dans le débat d'aujourd'hui, il sera question de l'activité navale de l'Iran dans le golfe Persique. En effet, l'Iran a démontré en assurant la sécurité énergétique mondiale en neutralisant des opérations de piratage des États-Unis dans le détroit d'Ormuz, dans le golfe Persique. Alors, les États-Unis jusqu'ici se croyaient tout permis, alors que l'Iran donc a prouvé encore une fois qu'il est capable d'assurer donc ses sécurités dans la région. Et nous parlerons bien sûr dans ce débat des failles fondamentales et de manque d'intelligence dans les opérations militaires des États-Unis, surtout récemment, ils ont démontré, dans le détroit d'Ormuz. Nous parlerons bien sûr de cette crise diplomatique entre les États-Unis et la France, où les États-Unis, donc maladroitement, a volé sous le nez de la France des contrats militaires importants, des sous-marins pour l'Australie. Des experts des questions internationales vont faire vivre le débat d'aujourd'hui, juste après ce reportage.
Un groupe de réflexion américain a écrit dans une récente analyse que l'Iran fait une démonstration de sa capacité à assurer la sécurité énergétique mondiale dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Dans une analyse récente, la puissance navale de l'Iran dans le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, Middle East Institute a écrit que la fermeture pour plusieurs années du détroit ne nécessiterait que 300 mines et que la marine américaine serait totalement incapable de faire face à cette menace à court et à moyen terme. De toute évidence, la force navale du CGRI, en annulant la saisie par l'US Navy d'un pétrolier transportant du pétrole iranien en mer d'Oman, n'a pas seulement démontré la nullité stratégique et tactique de l'arrogance mondiale que l'on retrouve au stade terminal de la décrépitude et qui se croyait pourtant tout permis jusqu'à l'avènement de la révolution islamique. Cette opération rapide des forces navales du CGRI est une opération anti-piratage qui révèle, entre autres, des failles fondamentales, un manque d'intelligence et surtout l'empirisme des puissances déclinantes qui s'accrochent à des stratégies surannées. Cela intervient alors qu'en septembre dernier, l'annulation du contrat FSP par les Australiens, car séduit par une offre conjointe des États-Unis et du Royaume-Uni, n'a pas tardé à tourner en crise diplomatique ouverte. Mais la réaction française face à cette trahison, à maintes reprises, était critiquée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À gauche, par exemple, le sénateur du Parti socialiste, Rachid Temal, s'est questionné sur les propos du président américain qui évoque une simple maladresse dans ce dossier. J'imagine si les États-Unis avaient été habiles alors. Tout cela ressemble bien à une deuxième humiliation, sans broncher, a dénoncé sur Twitter le parlementaire.
Alors voilà pour le reportage. Alors comme j'ai promis, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux chers invités. En commençant par M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour, bonjour à votre plateau et à votre public.
C'est un plaisir de vous recevoir. Luc Michel, un grand bonjour également à M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales qui nous joint depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe et bien sûr bonjour à Luc Michel.
Un débat prometteur, chers amis. Nous parlerons bien sûr de cette capacité navale de l'Iran pour assurer la sécurité énergétique mondiale dans la région du golfe Persique. Alors, Luc Michel, bien sûr, il est caché pour personne que l'Iran est là pour assurer la sécurité, surtout la sécurité énergétique, en neutralisant, on a vu tout récemment, les opérations de piratage des États-Unis qui ont été neutralisées par l'Iran.
La puissance maritime de l'Iran, elle ne s'exprime pas seulement, d'ailleurs, dans le golfe Persique, puisque maintenant, la marine iranienne est présente dans l'océan Atlantique, dans la Manche, dans la Baltique. L'amiral commandant votre flotte a participé au 325e anniversaire de la marine russe à Saint-Pétersbourg. Et ensemble, les marines russes et iraniennes neutralisent les Occidentaux dans le golfe de Guinée, à l'entrée de la mer Rouge, mais également dans l'entrée de l'océan Indien. Il y a en particulier la signature entre l'Iran et Madagascar d'un accord naval qui ouvre à la marine de guerre iranienne tous les ports de Madagascar. Les Français, d'ailleurs, ont réagi maladroitement puisqu'ils avaient tenté il y a quelques mois un coup d'État et un assassinat du président afghan. C'est donc une série d'erreurs. Mais ce qui saisit actuellement toutes les puissances occidentales, c'est ce que les Romains appelaient l'hubris, c'est-à-dire l'excès d'orgueil de puissance qui fait que ces gens maintenant, ou une politique militaire en particulier dans le domaine, qui est irréaliste, qui ne tient pas compte de l'évolution de l'organisation de la coopération de Shanghai en un bloc militaire et l'apparition d'une contre-OTAN, en particulier sur les mers.
Oui, merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Hugon depuis Paris. Alors, M. Hugon, nous parlons bien sûr de cette démonstration de force, des forces navales de l'Iran en neutralisant cette opération de piratage qui a été très maladroitement organisée.
Oui, alors vous savez, les États-Unis et comme beaucoup de pays européens qui interviennent dans la région accumulent maladresse sur maladresse. Et je pense que c'est une erreur fondamentale en politique étrangère de voir se créer un grand nombre d'injustices de la part des États-Unis vis-à-vis de pays comme l'Iran. Je pense que l'Iran devrait être un véritable allié de l'Union européenne. Allié aux États-Unis, ça va être bien sûr très difficile parce que les États-Unis n'ont pas du tout la lucidité de voir la réelle politique au niveau international. Alors que l'Iran a démontré un peu sa position de force, c'est une certitude, et ils ont eu raison de le faire. Je rappelle quand même qu'ils ont quand même une partie de leur côte sur le Golfe. Donc il est tout à fait légitime que l'Iran intervienne. Ce qui est nettement moins légitime, ce sont les nombreuses interventions occidentales et qui se permettent depuis maintenant plus d'un demi-siècle d'intervenir et d'ingérer dans les affaires d'autrui. Je ne sais pas comment réagiraient les États-Unis si des pays comme l'Iran ingéraient dans leurs affaires et économiques. Et je pense qu'ils ne seraient pas vraiment ravis de voir une telle situation arriver un jour. Moi, je crois surtout que les États-Unis, comme l'Union européenne, sont des pays qui n'ont plus les moyens de leurs ambitions. Ce sont des pays qui vivent encore sur des relents de colonialisme et se permettent de vouloir imposer leur dictat à un certain nombre de pays. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une politique qui est totalement dépassée. Et aujourd'hui, que ce soit les États-Unis ou l'Union européenne, devraient émettre et prendre de grandes réserves vis-à-vis des pays comme l'Iran, puisqu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus du tout en position de force, puisque je rappelle quand même que les États-Unis sont un pays financier, tout comme l'Union européenne d'ailleurs. Donc on n'a plus les moyens de nos ambitions, et je pense qu'il faudrait mieux se tourner vers la diplomatie afin de trouver des accords avec des pays comme l'Iran, plutôt que de vouloir les affronter de face dans un duel qui ne sert à rien et qui est totalement stérile sur un plan international.
Luc Michel, apparemment les États-Unis ne sont pas prêts à se livrer au charme de la démocratie et au contraire, ils ont toujours accès à la force. Est-ce qu'il est temps que les États-Unis se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se permettre de tout faire dans la région, aller jusqu'à donc maladroitement opérer des opérations de piratage?
Écoutez, la piraterie, c'est la lutte contre la piraterie. C'est le prétexte de l'ingérence des marines occidentales dans une zone qui va du golfe de Guinée jusqu'à l'entrée de l'océan Indien. Mais en réalité, les marines occidentales pratiquent elles-mêmes la piraterie, l'interception de navires, etc. C'est quelque chose qui n'est plus acceptable et qui correspond, comme l'a bien expliqué M. Hugon, à une vision dépassée des choses. Mais le problème des États-Unis, c'est que depuis le début du 19e siècle, il ne faut pas oublier que les États-Unis, ce sont les inventeurs avec l'Allemagne de la géopolitique. La géopolitique a été définie par des amiraux anglo-saxons et ils ont défini toute leur capacité mondiale autour d'une projection de la puissance et en particulier la projection de la puissance des flottes au niveau mondial. Dans l'hymne des marines américains, on parle des rivages de Tripoli et ça date du 19e siècle. Donc l'ambition américaine, elle n'était pas uniquement de dominer l'étranger proche, comme le disait la doctrine de Monroe, quand ils ont éjecté les puissances européennes. Mais dès le 19e siècle, les Américains voulaient être présents, notamment en Méditerranée. C'est une époque terminée. Le temps des cas malheureux qu'il va pour ramener les Occidentaux à une vision réaliste des choses. Mais c'est un processus. Le problème, c'est que les géopoliticiens américains, au contraire, ils estiment actuellement que les États-Unis ont encore une quinzaine d'années dans lesquelles ils vont être position de force. Et certains sont tentés par ce que j'ai appelé un banco géopolitique, c'est-à-dire de tenter une opération de force pour garder la suprématie. C'est une voie suicidaire. C'est une voie suicidaire pour tout le bloc occidental, d'autant plus que le bloc occidental, s'il est une unité militaire, est parcouru de fractures qui sont les guerres économiques, comme vient encore de le révéler la querelle des sous-marins australiens.
Monsieur Hugo, alors nous avons entendu les propos de Monsieur Luc Michel. J'aimerais que vous développiez à présent davantage des failles fondamentales et de manque d'intelligence dans l'attitude des États-Unis.
Oh bien, je pense que le manque des réalités aux États-Unis et dans l'Union européenne est vraiment flagrant. Hein. Je pense qu'on vit aujourd'hui sur des contextes de politique étrangère qui sont complètement dépassés et qui s'accrochent encore à des concepts de politique étrangère qui ne sont plus du tout adaptés à la situation d'aujourd'hui. Donc les failles, elles existent, elles sont bel et bien là. Et je pense que c'est un véritable problème de réal politique, puisque aujourd'hui c'est la diplomatie qui devrait prendre le dessus sur la force, de façon à trouver des accords avec des pays comme la Russie, comme l'Iran, de façon à trouver des solutions qui soient pérennes dans l'avenir. Luc Michel le disait, et il a tout à fait raison, cette politique conduite, que ce soit par les Américains ou les Français, va nous amener à une situation critique. C'est une politique qui est condamnée à l'échec. Et d'ailleurs, on le voit déjà sur le terrain. Les États-Unis subissent des échecs depuis quelques années aujourd'hui, que ce soit en politique ou sur le plan militaire. On a bien vu le retrait américain, que ce soit d'Irak, en Afghanistan. On ne peut pas dire que leur intervention a été très, très brillante. Ce qu'ils ont fait, c'est amener le chaos dans une région qui était déjà très chaotique, et ce chaos se poursuit par la faute de leur intervention. Donc je pense qu'il y a vraiment un manque de réalisme dans leur façon d'aborder les problèmes internationaux. Il y a toujours ce relent d'orgueil que l'on trouve d'ailleurs aussi bien côté français que du côté américain, que du côté britannique. Mais ce côté orgueil, je trouve qu'il est totalement dépassé aujourd'hui, puisqu'en fait, nous avons quand même bientôt 8 milliards de personnes sur Terre, ce qui est un véritable problème, cette surpopulation. Cette population va engendrer des appauvrissements économiques et risque de créer des situations explosives dans certaines parties du monde. Et là encore, si on n'est pas capable déjà de gérer une situation comme avec l'Iran ou avec la Russie, qu'est-ce que ça va être le jour où on a un embrasement dans certains pays et un effondrement économique? Moi, je suis extrêmement pessimiste pour l'avenir, parce que je me dis que dans les 15 ans qui viennent, on va voir des bouleversements géostratégiques qui vont être absolument incroyables, dont on n'imagine pas encore les conséquences qu'elles auront pour les 15 ou 20 ans qui viennent.
Oui. Luc Michel, est-ce qu'on peut penser à un espoir pour l'avenir de la politique étrangère des États-Unis? Car cette fois-ci, ce sont des groupes et des institutions politiques qui ont admis donc concrètement de la capacité navale de l'Iran pour assurer la sécurité dans la région du Golfe Persique.
Non, je ne crois pas à un retour du réalisme, parce qu'il y a une dimension supplémentaire, c'est l'Afghan. La propagande, c'est une dimension de la guerre moderne, notamment de la guerre médiatique. Mais lorsque vous croyez votre propre propagande, vous courez à la mort et au suicide. L'exemple typique, c'est le Troisième Reich en 1941, qui attaque l'Union soviétique en croyant la propagande allemande qui décrit l'Union soviétique comme un État dégénéré aux mains d'un système chaotique, alors que l'Union soviétique, sur le niveau militaire et industriel, est supérieure à l'Allemagne, et que, on l'ignore souvent, ce ne sont pas les Allemands qui ont inventé la Blitzkrieg en 1939, c'est le général Joukov en Mongolie extérieure contre le Japon en 1938. C'est la même chose avec les États-Unis. depuis le régime de Bush 2, ils croient à leur propagande. En 2002, il y a un livre qui sort, c'est le manifeste des néoconservateurs, c'est le chef de file de ceux-ci, Bill Kristol, il écrit un livre, Notre chemin commence à Bagdad. Dedans, ils expriment des opinions irréalistes, c'est-à-dire tout d'abord que le modèle occidentalo-américain, c'est le modèle universel, c'est vraiment la démocratie avec un grand L, et ils croient que les populations vont se soulever pour appliquer ce modèle américain, notamment en Irak et en Afghanistan. Ça conduit à deux catastrophes géopolitiques avec les États-Unis. Même s'ils ont tenté de s'en sortir par la géostratégie du chaos, c'est une politique qui débouche directement sur l'irréalisme de la politique de Trump. Actuellement, nous avons des gens, Trump a mené une politique irréaliste, Macron se comporte encore comme s'il était un proconsul au temps du colonie du 19e siècle. Quand vous le voyez intervenir en Afrique, au sommet de Montpellier ou au Liban lors de ses visites, c'est un proconsul occidental. Il a encore démontré l'irréalisme lorsqu'il a prétendu prendre le sommet de la réunion de la COP26 il y a quelques jours. Lorsque vous écoutez le discours de Macron, vous avez l'impression que vous êtes devant le chef du monde. Et en réalité, la France, c'est une petite puissance géopolitique mineure qui est sur le déclin. C'est comme cela dans tous les domaines. Erdogan fait la même erreur, c'est-à-dire que Erdogan croit qu'il est en train de reconstituer l'Empire ottoman. Ce sont des objectifs irréalistes. Donc je ne crois pas que le bloc occidental reviendra au réalisme. Et je pense que, puisque les géopoliticiens américains prévoient la Troisième Guerre mondiale, ils sont les seuls dans ce cas-là. Eux, ils en parlent ouvertement. Des gens comme George Friedman, qui est le chef de file de la géopolitique américaine, c'est l'ancien patron de Stratfor, lui, il évoque la Troisième Guerre mondiale entre 2005 et 2070. Eh bien, cette Troisième Guerre mondiale, contrairement à ce qu'ils pensent, je suis persuadé, moi, qu'ils vont la perdre. D'autant plus que leurs adversaires, eux, sont des gens réalistes. Il y a notamment, puisque nous avons commencé à débattre de la marine, il y a justement ce plan de Vladimir Poutine pour reconstituer des flottes russes sur tous les océans, comme au temps de Brejnev et de l'amiral soviétique Gorchov. Il y a le plan de la marine iranienne qui visiblement maintenant a des objectifs de géopolitique, non pas mondial, mais qui dépasse les objectifs régionaux. Et enfin, il y a la marine chinoise aujourd'hui qui a quitté la géopolitique de l'étranger proche pour se projeter en Afrique, dans le golfe de Guinée, dans l'océan Atlantique. C'est tout cela qui n'est pas pris en compte par les Américains. Une politique réaliste, elle voudrait se concilier, se partager le monde en zone d'influence. Ça suppose que les États-Unis ne dominent plus l'Europe. L'avenir au 22e siècle, ce sont des occidentaux autocentrés, les États-Unis, mais ramenés comme une puissance régionale, et qui feront des accords géopolitiques entre eux bilatéraux. C'est l'avenir, c'est décrit tel quel depuis le début du XXe siècle par les géopoliticiens, et malheureusement, l'Amérique ne se dirige pas vers cet avenir.
Monsieur Egon, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Luc Michel quand il parle des pays irréalistes et des pays qui ont les pieds sur terre?
Ah oui, tout à fait, là, je suis tout à fait d'accord avec Luc Michel. Il est vrai qu'on a en Europe ou aux États-Unis une vision totalement décalée des réalités de la politique internationale. Moi, je pense que le problème, c'est que tout ceci, même si ça ne conduit pas à un véritable conflit mondial, parce que je ne le vois pas arriver de cette façon, je pense malgré tout que le système financier que l'on a dans le monde occidental va s'effondrer dans les années qui viennent, et ça va faire des dégâts impressionnants au niveau de notre propre économie. Donc nous n'aurons plus la possibilité financièrement de pouvoir intervenir dans ces pays, et comme le disait très bien Luc Michel, on va avoir quelques zones d'influence, on deviendra un peu des puissances régionales, mais on n'aura plus cette ambition de pouvoir gérer le monde. D'abord, nous n'en sommes pas capables, je dirais sur un plan politique, mais on n'a pas les moyens financiers de notre politique. Donc, il est clair que dans les 20 ans qui viennent, je pense qu'on va voir de très grands bouleversements dans la stratégie de la gestion du monde. Et ce qui va être un point positif pour un grand nombre de pays, de pouvoir se développer et se développer à leur rythme, ce qui est une très bonne chose pour la paix et pour le bien-être des peuples, si je peux m'exprimer ainsi. Puisque si on laisse faire le monde occidental dans la gestion du monde, eh bien, ça va nous amener droit, non pas vers un conflit mondial, puisque je ne le pense pas, mais à des conflits locaux qui seraient extrêmement violents. Donc, c'est une très bonne chose que cette crise financière puisse arriver dans les années qui viennent, puisque ça va remettre, réajuster, rééquilibrer la situation financière mondiale, et ça va obliger les pays occidentaux à voir la réalité en face. Et il n'y a qu'une possibilité pour ça, c'est qu'il y ait cet effondrement financier.
Pour confirmer ce que vous dites un peu, Philippe Hugon, donc cette humiliation française avec cette rencontre de Biden avec Emmanuel Macron après avoir volé sous le nez de la France maladroitement, ils ont admis eux-mêmes, les États-Unis, maladroitement, donc ce contrat important des sous-marins de l'Australie qu'ils ont annulé justement.
Oui, alors quand on dit maladroitement, je suis prêt à accepter le titre de maladroitement. Moi, je pense que c'était délibérément fait afin de torpiller les Français sur le dossier des sous-marins. Je pense que quand on a des dossiers qui pèsent des dizaines de milliards d'euros, eh bien, je pense qu'il n'y a plus du tout de sentiment dans les affaires. Et les Américains étaient très, très contents de récupérer un certain nombre de contrats. Ils ont déjà torpillé hein, dans l'histoire le Concorde, ils ont torpillé un certain nombre de contrats, hein, on a bien vu leur façon de faire. Moi je pense que c'est vraiment pas réaliste de penser qu'on puisse faire un front commun avec les États-Unis. Je pense que les États-Unis sont en position de survie actuellement, ce qui est le cas également de l'Europe d'ailleurs, mais je pense pas que c'était si maladroitement effectué, je pense qu'au contraire ça a été délibéré de la part des Américains de façon à ne pas passer à côté d'un contrat aussi juteux que les sous-marins. Alors après, bien sûr, vous avez lors des réunions comme ça entre chefs d'État, des gens qui vont s'excuser ou à demi-mot, si je puis dire. Mais par ailleurs, ça ne change pas grand-chose à la réalité de la situation. D'où l'intérêt qu'il faudrait aujourd'hui que l'Europe soit vraiment très forte, de façon à pouvoir faire un véritable front commun envers les États-Unis, puisqu'ils se permettent tout depuis une soixantaine d'années. Et ils n'ont plus cette position aujourd'hui, donc ils utilisent des moyens très, très malhonnêtes, parce que je pense que ça a été fait malhonnêtement, de façon à torpiller ce marché.
Tout à fait. Philippe Hugon, merci beaucoup depuis Paris d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à M. Luc Michel, géopoliticien qui a gentiment accepté notre invitation depuis Bruxelles. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
COP26, verdir la finance. La COP26 est un spectacle divertissant imaginé pour détourner l'attention du public de ce qui se trame réellement. Le GIEC, Comité d'experts climatiques des COP, ne prédit pas l'apocalypse à des gouvernements sourds, mais leur fournit un discours permettant de justifier leur ambition politique. Les présidents Vladimir Poutine et Xi Jinping, qui sont résolument hostiles au projet financier des COP, ont refusé de s'y rendre alors que les grands banquiers y parlent de 100 milliards de dollars d'investissement. Les conférences des Nations Unies sur les changements climatiques s'accompagnent toujours de discours apocalyptiques, mais ne débouchent pourtant jamais sur des engagements quantifiables et vérifiables. Elles ne donnent lieu qu'à des promesses signées en grande pompe, mais toujours formulées au conditionnel. La conférence qui se déroule actuellement à Glasgow, au Royaume-Uni, du 31 octobre au 12 novembre ne devrait pas échapper à la règle. Elle a débuté avec une vidéo spectaculaire d'un dinosaure annonçant à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies la possible extinction de l'espèce humaine et s'est poursuivie avec un discours d'ouverture du Premier ministre britannique Boris Johnson sur ce que ferait James Bond face aux défis climatiques. Cette mise en scène s'est poursuivie dans la rue avec une manifestation conduite par Greta Thunberg pour déclarer illégitime tous les gouvernements du monde et dénoncer l'échec de la conférence qui pourtant ne fait que juste commencer. Les leaders politiques qui ont appelé à sauver l'humanité d'une fin imminente sont les mêmes qui investissent des milliards de dollars dans des armes nucléaires capables de rayer la vie humaine de la planète. Le moins que l'on puisse dire est que cette conférence est un divertissement de qualité offert aux spectateurs du monde entier, pas une réunion diplomatique visant à diminuer la production de gaz à effet de serre. Mais alors, quelle réalité ce cirque vise-t-il à masquer? Et pourquoi tous les États membres de l'ONU y participent-ils? Le réchauffement global. Pour répondre à ces questions, nous devons d'abord nous émanciper de quelques certitudes erronées sur le réchauffement global. C'est à tort que nous croyons que le réchauffement global menace la survie de notre espèce. Le climat a toujours changé, non pas de manière linéaire, mais par cycle. La Terre était plus chaude il y a 7 siècles qu'elle ne l'est aujourd'hui. Par exemple, en France, les glaciers des Alpes étaient plus petits qu'aujourd'hui et il y avait des chameaux sauvages en Provence. Certains des côtes donc s'avançaient plus dans les mers qu'aujourd'hui, mais d'autres, au contraire, étaient plus en retrait, etc. Nous avons constaté que le réchauffement du climat en Europe correspond à la révolution industrielle. C'est pourquoi nous croyons que les évolutions climatiques auxquelles nous assistons ont été accélérées par la production industrielle de gaz à effet de serre les deux derniers siècles. C'est possible, mais concomitance n'est pas causalité. Il existe d'autres hypothèses, dont celle du géophysicien yougoslave Milutin Milankovitch, à partir des variations de l'orbite terrestre, excentricité, obliquité et précision des équinoxes. La création du GIEC par Margaret Thatcher. Venons-en aux conférences des Nations Unies. En 1988, les premiers ministres canadiens et britanniques Brian Mulroney et Margaret Thatcher convainquirent leurs partenaires, donc les États-Unis, la France, l'Allemagne et l'Italie, de financer un groupe intergouvernemental d'études sur l'évolution du climat, donc le GIEC, sous les auspices du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, le PNUE, et de l'Organisation Météorologique Mondiale. Peu après, Mme Thatcher affirma que les gaz à effet de serre, le trou de la couche d'ozone et les pluies acides exigeaient des réponses intergouvernementales. Ce beau discours masquait des objectifs politiques. Il s'agissait pour elle, ainsi que le confirmeront ses conseillers, d'en finir avec les syndicats de mineurs de charbon et de promouvoir une nouvelle révolution industrielle fondée sur le pétrole de la mer du Nord et le nucléaire. Le GIEC n'est pas du tout une académie savante de climatologues, mais comme son nom l'indique, un groupe intergouvernemental. On n'y discute pas de climatologie, mais de politique climatique. La grande majorité de ses membres ne sont pas des scientifiques, mais des diplomates. Et quant aux experts en climatologie qui y siègent, ils n'y sont pas en tant que scientifiques, mais comme experts au sein de leur délégation gouvernementale, c'est-à-dire comme fonctionnaires. Toutes leurs interventions publiques sont contrôlées par leur gouvernement. Il est donc grotesque de parler de consensus scientifique pour désigner le consensus politique qui règne dans cette assemblée. C'est ne rien comprendre au fonctionnement des instituts intergouvernementaux. Contrairement à ce que pense Greta Thunberg, le GIEC ne prédit pas l'apocalypse à des gouvernements sourds. Il leur obéit fidèlement et élabore, avec des climatologues, une rhétorique pour justifier des changements politiques que des gens normaux refuseraient sans lui. Les travaux du GIEC servent de base chaque année à une conférence des parties, donc le COP, signataire de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La 26e édition se tient à Glasgow, donc la COP 26. Et dans son premier rapport, en 1990, le GIEC considérait comme peu probable une augmentation sans ambiguïté de l'effet de serre dans les prochaines décennies ou plus. Mais ce qui était la vérité en 1990 est devenu hérétique en 2021. Les premières conférences étaient consacrées au travail d'information et de sensibilisation du public à l'évolution du climat. Il était clair pour tous que certaines régions deviendraient inhabitables et que certaines populations devraient se déplacer. Ce n'est qu'avec le temps que l'on a commencé à dire que les changements deviendraient d'une telle ampleur qu'ils pourraient menacer la survie de l'ensemble de l'espèce humaine. Ce changement de discours ne s'explique pas par une soudaine découverte scientifique qui aurait remis en cause une vérité d'un jour, mais par l'évolution des besoins des gouvernements. La société de consommation est au bord du gouffre. On ne peut pas vendre aux gens ce qu'ils ont déjà. Et si les industries s'effondrent, les emplois disparaissent et les gouvernements sont renversés. Il n'existe qu'une solution pour éviter cela. Par exemple, à la fin des années 90, la plupart des sociétés occidentales étaient informatisées. Il devenait donc impossible de vendre des ordinateurs. On a donc propagé le canular du siècle, le fameux bug de l'an 2000. Toute l'informatique allait bugger le 1er janvier 2000 à minuit. Chacun a alors racheté des ordinateurs et des logiciels. Et il n'y a bien sûr aucun avion qui ne se soit crashé, aucun ascenseur qui ne se soit arrêté, aucun ordinateur qui soit tombé en panne. Mais la Silicon Valley était sauvée et l'on allait désormais investir dans des ordinateurs grand public. Aujourd'hui, la solution, c'est la transition énergétique. Par exemple, on ne peut pas vendre plusieurs voitures au même consommateur, mais on peut par contre échanger sa voiture à essence contre une autre à électricité. Bien sûr, l'électricité est généralement fabriquée avec du pétrole et exige des batteries aujourd'hui non recyclables. En définitive, avec la transition énergétique, la planète sera plus polluée qu'avant. Mais cela, il ne faut pas y penser. La bourse climatique, la seule avancée de la COP. Durant le mandat du président Bill Clinton, les États-Unis prirent le contrôle du GIEC de sorte qu'ils poussèrent le protocole de Kyoto, donc la COP 3, sans jamais le signer. Le vice-président Al Gore était alors chargé de la politique énergétique américaine. Il approuvera ainsi la guerre du Kosovo, ainsi de pouvoir construire une pipeline trans-balkanique. Mais alors que le protocole visait originellement à limiter les émissions de 5 gaz à effet de serre et de 3 substituts, des chlorofluorocarbones, il poussa à la création de droits d'émission du CO2 pour les industries et oublia les autres gaz. Après avoir quitté la Maison Blanche, il fonda avec des banquiers de Goldman Sachs et un financement de BlackRock, la bourse du climat de Chicago. Les États-Unis n'ayant jamais signé le protocole de Kyoto, elle fonctionna mal et il ouvrit donc des succursales sur les 4 autres continents qui se développèrent rapidement. Il perçoit aujourd'hui une rémunération à chaque échange de droits d'émission de CO2 et pour développer son business, il se transforma en militant de la cause climatique et produit le film « Une vérité qui dérange ». Il reçut alors le prix Nobel de la paix, que cette œuvre tienne donc plus de la publicité pour sa bourse que de la science. Et pour la petite histoire, les statuts de la bourse du climat avaient été redirigés par un jeune juriste inconnu, Barack Obama. Il entrera peu après en politique à Chicago et sera soudainement élu président des États-Unis 4 ans plus tard. Une fois à la Maison-Blanche, Barack Obama élaborera donc le projet d'utiliser l'hystérie climatique pour réformer le système financier global. C'est pour le projet qui sera adopté par la COP 21 à Paris et qui devrait être mis en œuvre par la COP 26 de Glasgow. la prochaine réalisation de la COP Verdir la finance. Celle-ci est organisée par le Royaume-Uni avec l'aide de l'Italie. 4 Britanniques en ont la charge, 2 anciens ministres, Alok Sharma, donc économie, industrie et stratégie industrielle, et Anne-Marie Trevelyan, donc le développement international, un ancien gouverneur des banques du Royaume-Uni et du Canada, Mark Carney, et un lobbyiste, Nigel Topping. Aucune de ces personnalités ne connaît quoi que ce soit à la climatologie. Toutes portent, par contre, un projet de réforme des institutions de Bretton Woods. C'est parce qu'ils ont opposé donc à ce projet financier et pas du tout à la lutte contre la pollution atmosphérique que les présidents russes et chinois Vladimir Poutine et Xi Jinping ne participent pas à cette conférence. Le site internet de la COP26 indique qu'il s'agit de mobiliser des financements pour atteindre nos objectifs. Les pays développés doivent tenir leur promesse de mobiliser au moins 100 milliards de dollars de financement climatique. Les institutions financières internationales doivent jouer leur rôle et nous devons travailler pour libérer les milliers de milliards de financements des secteurs privés et publics nécessaires pour garantir le zéro net mondial. Il faut bien comprendre qu'il n'est plus possible d'endetter donc les pays pauvres et donc de les tenir en laisse tant que la Banque mondiale et surtout le FMI ne sont plus crédibles. Tous les gouvernements savent aujourd'hui que les dons et les prêts des institutions internationales s'accompagnent de conditions drastiques qui rendent leur pays vulnérable, que lorsque viendra le moment de rembourser, ils ne seront plus propriétaires de rien. Avec la COP26, les banquiers pourront prêter de l'argent pour sauver l'humanité et au passage devenir propriétaires des pays dont les dirigeants leur auront fait confiance.
Thank you.